démarche. Bon, et maintenant, nous laissons la parole à notre candidate communiste, Nathalie Arthaud.
Travailleuses, travailleurs, camarades et amis. La description que vient de donner mon camarade de la situation des travailleurs de la région est éloquente. Bien qu'elle soit une des régions les plus riches et les plus industrialisées, la liste des entreprises qui ferment ou qui se débarrassent d'une partie de leurs effectifs s'allonge et le chômage s'aggrave. Et même dans cette région industrialisée, donc, chaque travailleur licencié sait qu'il a de moins en moins de chances de retrouver un travail à brève échéance, ou alors il ne trouvera qu'un emploi précaire et mal payé. Chacun sait aussi qu'à partir d'un certain âge, lorsqu'on est rejeté par une entreprise, on n'a pratiquement plus aucune chance de retrouver un emploi correct. Nous savons aussi tous, même ceux qui conservent encore leur emploi, à quel point le chômage pèse sur tout le monde. Il faut être bien inconscient pour ne pas savoir, pour ne pas ressentir que nous sommes tous des licenciés en puissance et que rien ne nous protégera, ni un métier, ni un statut, et encore moins l'ancienneté dans une entreprise. Un bon métier ne protège que tant qu'une entreprise capitaliste pense qu'elle peut faire du profit sur votre dos. Quant au statut, des cheminots au personnel hospitalier en passant par celui des postiers ou des enseignants, nous savons tous qu'ils sont en train d'être démolis par la multiplication de ceux qui travaillent sous contrat privé, voire sans contrat du tout, auxiliaires, vacataires, intérimaires ou stagiaires. Et l'ancienneté au travail ne protège pas plus. Combien de travailleuses ou de travailleurs ont vécu l'expérience douloureuse d'avoir été jetés dehors malgré 20, 30 30 ans passés dans une même entreprise. Et le patronat se sert aussi du chômage et de la crainte qu'il suscite pour aggraver les conditions de travail et d'existence de ceux qui sont encore en activité. C'est en s'appuyant sur le chômage des uns que les patrons imposent aux autres des salaires trop bas, la flexibilité, un rythme de travail toujours plus dingue, l'autoritarisme des petits chefs aussi, qui eux aussi craignent d'être jetés. Eh bien, cette situation continuera. Et elle s'aggravera au lendemain de l'élection présidentielle. Je ne dis pas cela par pessimisme, mais parce qu'il est important pour le monde du travail d'être lucide et de voir la réalité en face et de comprendre la politique du grand patronat pour pouvoir le combattre efficacement. Sarkozy a déclaré « La lutte des classes, la guerre de classes, cela n'existe plus. L'entreprise, ce n'est pas notre ennemi, c'est l'endroit où l'on crée des richesses. » Ah, les travailleurs sont en effet bien placés pour savoir que oui, c'est l'endroit où se créent les richesses, parce que ce sont eux qui les suent, les profits. Et ils sont bien placés pour voir aussi que plus ils triment, plus ils créent des richesses, plus ils vivent mal. Ce sont les cadences qui augmentent, les pressions pour en faire toujours plus, les minutes de pause volées, les heures supplémentaires oubliées sur les fiches de paye. Et puis ce sont les horaires de travail, toujours plus délirants. Ce sont aussi les accidents du travail qui sont maquillés en arrêt maladie. Ce sont les intérimaires, les stagiaires qui sont renvoyés du jour au lendemain et leur boulot qui retombe sur ceux qui restent. Alors la lutte de classe, eh bien oui, les travailleurs, ils la vivent et ils la vivent au quotidien. Alors on nous reproche souvent de considérer tous les patrons uniformément comme des patrons mauvais. Eh bien, c'est un reproche stupide. Comme si le rapport entre la classe capitaliste et les travailleurs était une question morale. Comme si l'exploitation était une question de dureté ou de gentillesse. Je ne me pose pas la question de savoir si le père, la mère ou les fils Peugeot sont bons ou mauvais. Je ne me pose pas la question de savoir si messieurs Arnault, Bolloré, Lagardère ou Dassault, si tous les gros actionnaires qui vivent des dividendes de l'exploitation sont gentils ou méchants. Qu'ils soient humains, sensibles dans leur famille, vis-à-vis de leurs amis et caressants pour leur chien ou leur chat ne m'intéresse pas. Parce que ce n'est pas une question de morale, ce n'est pas une question de psychologie, c'est une question d'organisation sociale. Dans le cadre de cette économie capitaliste, l'argent, les capitaux donnent aux propriétaires, aux gros actionnaires des entreprises, un pouvoir sur la vie et sur les conditions d'existence de centaines, de milliers de femmes et d'hommes, leurs salariés. C'est leur situation sociale qui fait que leurs intérêts sont diamétralement opposés à ceux des salariés. Et les lois de l'économie capitaliste, la concurrence, les poussent à la course au profit. Les lois de l'exploitation sont ainsi. Moins les patrons payent de salaire, plus leurs entreprises font de profit. Plus leurs salariés sont malléables, plus ils acceptent des cadences insupportables, plus l'entreprise fait des profits et plus les actionnaires touchent les dividendes. C'est cette réalité-là que recouvre le terme de compétitivité. Et cela, quel que soit l'état général de l'économie, et même en période de croissance, il y a toujours, tout le temps, un choc entre les intérêts contradictoires, entre l'exploiteur capitaliste et ses salariés exploités. C'est une lutte de classe. Que la lutte soit perceptible ou invisible, virulente ou entourée d'hypocrisie, la classe capitaliste la mène dans toutes les circonstances. Dans une économie basée sur l'exploitation, il ne peut pas en être autrement. Mais la crise, eh bien, elle exacerbe encore cette exploitation. Car une crise économique, cela signifie que le marché ne s'élargit pas assez rapidement, que la quantité de marchandises vendues, des automobiles jusqu'aux boîtes de petits pois, ne s'accroît pas à un rythme suffisant pour que les capitaux rapportent 5, 10, 15% de plus que l'année précédente. Le profit que le marché n'est plus capable de leur rapporter, la classe capitaliste cherche à le prélever sur ses salariés. Dans cette jungle qu'est l'économie capitaliste, la crise pousse les plus gros à écraser plus encore les petits. Les grandes multinationales doivent écraser plus les PME, leurs sous-traitants ou leurs fournisseurs. Les banques étranglent plus encore tous ceux qui ont besoin de leurs services. Les grandes chaînes capitalistes de la distribution écrasent les paysans producteurs de légumes, de fruits ou de viande et le feront d'autant plus avec la crise. Car les uns comme les autres cherchent à rejeter leur manque à gagner sur ceux qui sont en bas de l'échelle, les salariés qui pourtant, sur ceux qui sont en bas de l'échelle, et y compris les salariés qui sont, eux, tout en bas de cette échelle. Alors oui, la crise aggrave et elle exacerbe les inégalités et l'exploitation. Et je le répète, il n'est pas question de morale dans toute cette histoire. Il n'y a que de froids rapports d'argent, car dans cette société capitaliste, il n'y a que cela qui compte. C'est révoltant, mais c'est ainsi tant que perdure l'organisation capitaliste de l'économie. Tant que perdure la mainmise d'une classe privilégiée sur les entreprises et sur l'économie, il faut savoir que les travailleurs ne peuvent défendre leur peau qu'en opposant à la classe capitaliste leurs propres intérêts. Voilà pourquoi, pendant toute la campagne électorale, j'ai insisté sur le fait que ce que je propose n'est pas un programme électoral, mais un programme de lutte. La quasi-totalité des candidats présente de beaux programmes électoraux, chiffrés, parfois même avec un calendrier d'application. Eh bien, pas un de ces programmes ne sera appliqué. On nous a amusés avec un tas d'âneries. Qu'il s'agisse de la viande halal ou du risque que ferait peser sur la société française la menace de psychopathes salafistes. On nous a amusés aussi avec les bons mots des uns et des autres. Tout cela n'a pas de sens. Mais ni plus ni moins que tous ces programmes savamment chiffrés qui n'engagent à rien. Pourquoi tous ceux qui ont gouverné sont-ils les champions des promesses non tenues ? pas parce qu'ils sont plus menteurs que la moyenne, quoique avec Nicolas Sarkozy, on peut estimer que la moyenne a largement remonté. Mais ce n'est pas seulement cela. C'est surtout qu'une fois les élections passées, la politique qui s'applique, c'est la politique patronale. C'est la politique qui est décidée dans les conseils d'administration. Et le seul programme qui sera réellement appliqué est celui dont on ne peut pas discuter, sur lequel on ne peut rien dire, parce qu'il est décidé justement dans le secret de ces conseils d'administration, dans le secret des conseils d'administration des grandes banques, des grandes entreprises. Et tous les grands groupes ont déjà leur plan tout fait pour les mois à venir. Chez Peugeot, à la Société Générale, chez Vinci, à Air France, à la SNCF, chez Total. ArcelorMittal a décidé de fermer Florange. Peugeot a décidé de fermer l'usine d'Aulnay-sous-Bois. Mais combien d'autres plans de licenciement sont déjà planifiés ? Combien de plans d'économie qui aggraveront les conditions de travail, qui écraseront les salaires ? Et il n'y aura pas de vote organisé sur ces programmes, qui nous touchent pourtant, en premier lieu. Alors on nous parle de démocratie. Mais les vrais maîtres de l'économie et de la société, ce sont les Peugeot, les Bouygues, les Arnault, les Dassault, les Mittal. Et il n'y a pas d'élection pour contester leurs décisions, il n'y a pas d'élection pour renverser ces gens-là. Alors oui, on nous incite à aller voter. On nous répète que la population est souveraine, mais on ne vote en réalité que pour des sous-fifres. Les capitalistes sont les rois des temps modernes. Ils détiennent le pouvoir que leur assurent leurs capitaux et la propriété privée des entreprises. Et ils ont un droit de vie ou de mort sur les entreprises. Ce sont eux qui décident ce qui est bon de produire, ou pas en fonction des besoins de la population, en fonction du profit que cela leur rapportera à eux. Et puis ce sont eux qui décident aussi de ne pas produire et de consacrer des milliards de capitaux à la spéculation. Alors oui, le pouvoir de la bourgeoisie est infiniment plus grand que celui des ministres ou du président de la République, qui ne sont là que pour la figuration, que pour justifier les décisions prises dans ces grands groupes capitalistes. Et il n'est malheureusement pas difficile pour les travailleurs de prévoir qu'une fois l'élection terminée, ces mêmes grands groupes continueront les plans de licenciement, parce que les conséquences de cette crise seront forcément payées par quelqu'un. Si nous ne voulons pas que ce soit les travailleurs qui payent, il faut nous battre pour revendiquer notre dû et il faudra faire payer la bourgeoisie. C'est leur CAC 40 ou c'est nos emplois, c'est leur profit ou c'est nos salaires, c'est leur sinécure ou c'est nos retraites, oui, c'est eux ou c'est nous. Les élections ne peuvent donc pas changer le sort des travailleurs. Ce sont les luttes collectives qui le peuvent. Mais les élections, eh bien, elles doivent nous servir à nous exprimer. Les travailleurs qui ne sont pas dupes des alternances électorales et qui n'attendent rien des élections n'ont aucune raison de se taire dans cette campagne. On peut, dans ces élections, exprimer sa révolte. On peut dire nos revendications, les populariser. On peut dire, en votant pour ma candidature, qu'on se prépare à se défendre et à se battre pour les imposer. Se taire, c'est faire plaisir à son patron. Et cela nous a été rappelé dernièrement par un courrier que l'entreprise Renault nous a adressé et dont je voudrais vous lire les grandes lignes. Nous avons constaté le 3 avril dernier la distribution de tracts politiques en faveur de lutte ouvrière au sein de l'établissement Renault-Guyancourt. Cette recrudescence qui s'inscrit dans le cadre de la campagne présidentielle n'est pas acceptable. Nous vous rappelons que vous, ni quiconque, n'êtes autorisé à distribuer des tracts de nature politique, ce qui est contraire à l'article L2131-1 du Code du travail au sein de l'enceinte de l'établissement de Renault-Guyancourt, conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'établissement. Ces dispositions sont applicables à tout salarié de Renault ainsi qu'à toute personne pénétrant au sein de l'enceinte de l'établissement. Toute diffusion ou affichage dans l'établissement de journaux, tracts, imprimés, brochures est soumise à l'autorisation préalable de la direction. Eh bien oui, nous vivons en démocratie, mais elle s'arrête au mur de l'entreprise. Là, il n'y a plus de liberté de presse, en tout cas, pas pour les travailleurs. Pas le droit de faire de la politique, même en pleine campagne électorale. Malgré cette dictature à l'intérieur des entreprises, les travailleurs conscients ont toujours su se donner les moyens de s'exprimer. Et ils continueront à le faire. Que ce soit en période électorale ou en dehors, nous continuerons de défendre notre politique, un programme de lutte. Nous continuerons de la défendre dans les usines, dans les bureaux, par des feuilles volantes, par des bulletins d'entreprise. Nous la défendons par les faibles moyens d'expression que nous laisse la démocratie bourgeoise et qui pèsent peu au regard de ceux qui ont de l'argent, les maîtres de l'économie, qui peuvent se payer un quotidien, comme Dassault avec le Figaro ou les Rothschild avec Libération, ou se payer une chaîne de télévision comme Bouygues ou encore une chaîne de radio comme Lagardère. Mais on peut suppléer cela par le dévouement militant. Et nous le faisons toute l'année. Mais aujourd'hui, la campagne électorale nous donne une possibilité supplémentaire de nous exprimer. Au premier tour, on a les moyens de s'exprimer au plus près de son opinion. Eh bien, il ne faut pas laisser passer cette occasion. Il n'y a aucune raison de garder son poing dans sa poche quand on a la possibilité d'exprimer une colère consciente et de lever dans cette élection, au premier tour, le drapeau des luttes. Nous avons dit et répété tout au long de la campagne électorale que les travailleurs n'ont rien à attendre dans cette élection présidentielle et qu'il ne faut surtout pas qu'ils espèrent être protégés un tant soit peu par le futur occupant de l'Élysée. À 4 jours du premier tour de l'élection, il semble évident que les deux candidats qui seront au deuxième tour et entre qui se décidera quel sera le prochain président de la République sont Sarkozy et Hollande. Pour ce qui est de Sarkozy, les travailleurs et les exploités en ont déjà fait le tour. C'est un ennemi ouvert de la classe ouvrière et il l'a montré par toutes ses mesures, par toute sa politique et je dirais même par toute sa personnalité. Même si aujourd'hui, il a le culot de se poser en protecteur des Français, comme il dit, face à la crise, les seuls Français qu'il a protégés, ce sont les Dassault, les Bettencourt et quelques autres auxquels il est politiquement, humainement, personnellement lié. Mais ce n'est pas pour rien que la plupart des travailleurs souhaitent qu'ils débarrassent le plancher. Mais en même temps, il n'y a rien à attendre non plus de Hollande. Pas seulement parce qu'il ne promet rien, parce que ces gens-là, même quand ils promettent, on ne peut pas leur faire confiance. Mais parce que tous ceux qui sont passés par les filtres des institutions bourgeoises ont été formés, dressés pour servir la grande bourgeoisie, la classe privilégiée et dominante. On me reproche souvent de dire qu'au gouvernement, il y aura bien peu de différence entre Hollande et Sarkozy. Et qu'en ce qui concerne les revendications vitales des travailleurs, l'emploi, les salaires, les retraites, il n'y en aura pas. Mais les anciens ministres de Sarkozy, et même le clan Chirac, qui se prononce aujourd'hui en faveur de Hollande, ne disent pas autre chose. S'ils peuvent, comme cela, passer de l'un à l'autre sans état d'âme, c'est qu'ils voient eux-mêmes bien peu de différence. Si les dirigeants socialistes reviennent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils feront? Est-ce qu'ils empêcheront le patronat de licencier, de fermer des entreprises? Est-ce qu'ils l'obligeront à augmenter les salaires? S'il est élu, est-ce que Hollande forcera le patronat à embaucher? Non, il ne le fera pas. Oh, je ne dis pas que Sarkozy et Hollande sont pareils, contrairement à la caricature si habituelle des journalistes. Je sais bien que leur base électorale n'est pas la même. Hollande cherchera à plaire un peu plus à l'électorat de gauche et il prendra peut-être quelques mesures que Sarkozy ne prendra pas, trop réactionnaire qu'il est. Les socialistes au pouvoir prendront peut-être quelques mesures sociétales, comme Mitterrand en avait prises, en supprimant par exemple la peine de mort. Hollande autorisera peut-être le mariage des homosexuels ou accordera le droit de mourir dans la dignité. Mais il ne prendra aucune mesure qui puisse coûter à la classe capitaliste ou qui puisse léser son pouvoir absolu sur les entreprises. Toutes les mesures qui pourraient préserver les conditions d'existence de la classe ouvrière coûteraient forcément à la bourgeoisie. Il fut des périodes dans le passé où, parce que ses affaires allaient bien, la bourgeoisie consentait aux dirigeants politiques de gauche le droit de prendre quelques mesures d'amélioration. Mais par ces temps de crise, il n'en est plus question. Si futur gouvernement socialiste il y a, il fera ce que la finance imposera. Si Hollande est élu, les coups, au lieu de venir de la droite, viendront de la gauche. Alors, si les travailleurs ont toutes les raisons d'exécrer Sarkozy, eh bien, ils n'en ont aucune, vraiment aucune, de faire confiance à François Hollande. Et j'ajouterai que la présence de Mélenchon, son langage plus radical et ses talents de tribun ne changeront rien au rapport de force qui commande ces relations sociales. Oh, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon regroupe ceux qui n'ont pas d'illusions en Hollande et qui veulent marquer leur méfiance en votant pour Mélenchon. Mais la seule perspective qu'offre celui-ci, derrière des expressions qui résonnent d'autant mieux qu'elles sonnent creuses, c'est de gouverner avec Hollande. Pour les exploiter, ce serait une illusion de mettre leur espoir dans un bon gouvernement de gauche, que Hollande soit flanqué de Mélenchon ou pas, ou que ce soit l'inverse. Ce n'est pas d'illusions dont les travailleurs ont besoin. Les illusions, c'est toujours une faiblesse pour les travailleurs. Cela retarde la prise de conscience. Cela ne prépare pas à la nécessité d'affronter la classe bourgeoise avec les armes de classe des travailleurs. Non, il ne peut pas y avoir un bon gouvernement de gauche en cette période de crise. La bourgeoisie ne laissera de place qu'à un gouvernement de combat contre la classe ouvrière. Il suffit de voir et de comprendre ce qui vient de se passer dans la Grèce de Papandréou ou dans l'Espagne de Zapatero. Le capital financier n'a laissé aucune échappatoire, aucune marge de manœuvre à ces gouvernements pourtant de gauche. Eh bien, il n'en laissera pas plus en France. Nul doute que si la crise s'aggrave, que le gouvernement soit de droite ou de gauche, il imposera aux travailleurs les mêmes sacrifices imposés aux travailleurs grecs et espagnols aujourd'hui, les amputations de salaires et de retraites, la démolition des services publics et le chômage forcé. Regardons, par exemple, avec quel zèle Hollande rivalise avec Sarkozy pour insister sur la nécessité de rembourser la dette de l'État. J'ai dit bien souvent durant la campagne que cette dette ne concerne en rien les travailleurs, car aucune catégorie de travailleurs, ni les chômeurs, ni les retraités, ni les plus pauvres n'en ont profité de cette dette. Et cette dette, si elle doit être payée, eh bien c'est par ceux qui en ont tiré profit, c'est-à-dire les banquiers et les grands groupes industriels. Mais ce remboursement de cette dette est demandé à toute la population, et que ce soit par la gauche ou par la droite. Mais c'est un racket, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est un racket que tous les grands partis qui gouvernent ont accepté et justifient. Pour les banquiers, ce n'est même pas le remboursement du principal de la dette qui est vraiment important. Le plus important pour eux, ce sont les intérêts que cette dette leur permet de prélever. C'est au nom de la dette que les banques imposent à tous les États endettés, et ils le sont tous, de payer des intérêts croissants. 50 milliards pour ce qui est de l'État français. C'est le premier poste budgétaire avec l'éducation nationale. Ces 50 milliards qui tombent de façon sûre et certaine chaque année dans les poches des banquiers. Alors pourquoi les banques se priveraient-elles? C'est cette dette qui a servi de justification à Sarkozy pour prendre des mesures d'austérité, pour économiser au détriment des services publics, pour supprimer des emplois d'enseignants, de cheminots, d'agents hospitaliers. C'est la dette qui sert de justification pour diminuer les remboursements de la sécurité sociale, pour rendre les soins de plus en plus chers et pour en écarter une fraction croissante de la population. Mais demain, le même refrain continuera, quel que soit l'élu. Derrière la question de la dette, il y a la volonté de la classe capitaliste d'obliger l'État à consacrer une part croissante de son budget à maintenir les revenus de la bourgeoisie. Et si la dette est remboursée, eh bien la bourgeoisie trouvera autre chose pour que le gouvernement continue à imposer les sacrifices à la population. Je ne suis pas Madame Soleil pour me lancer dans les prévisions, mais maintenant que les mesures d'austérité qui démolissent la consommation populaire menacent d'aggraver encore plus la situation du marché, de plus en plus de voix s'élèvent, même dans les milieux de la bourgeoisie, pour demander la relance de la croissance. Plus le climat économique devient difficile, plus les chantres de l'austérité sont isolés, se réjouit un quotidien qui n'est pourtant pas édité par les altermondialistes, puisqu'il s'agit du journal financier britannique, le très conservateur Financial Times. Pour ajouter, l'Europe parle depuis trop longtemps de croissance en n'en faisant pas assez. Eh bien, vous verrez que le prochain gouvernement évoquera la croissance pour demander aux travailleurs de nouveaux sacrifices. Tous les commentateurs relèvent déjà la convergence entre Sarkozy et Hollande pour réclamer une politique d'argent plus facile pour les entreprises, quitte à ce que cet argent déversé en direction des entreprises se traduise par une accélération de l'inflation. Ce qu'ils appellent croissance en sera une pour les revenus de la classe possédante, mais pas pour les travailleurs. Car pour les travailleurs, l'inflation, c'est avant tout la hausse de prix. Eh bien, ce sera une autre façon de voler les salariés, d'affaiblir leur pouvoir d'achat. Eh bien, il faut que les travailleurs prévoient cette éventualité et ne soient pas dupes des mots employés par les uns ou par les autres pour nous imposer de nouveaux sacrifices. Si les travailleurs veulent résister efficacement à l'offensive de la classe capitaliste, il leur faut surmonter tous les préjugés que la bourgeoisie entretient dans leur rang, malheureusement parfois par l'intermédiaire de certaines organisations ouvrières ou par d'hommes politiques qui se disent de gauche. Si les travailleurs veulent se défendre efficacement, il n'y a pas de place pour le chacun pour soi, il n'y a pas de place pour le corporatisme. Combien de fermetures d'entreprises ont montré qu'un ingénieur hautement qualifié, et à plus forte raison, des petits chefs, sont aussi facilement licenciés qu'un ouvrier sans qualification? À infiniment plus forte raison, il faut rejeter toute forme de division entre travailleurs en fonction de la nationalité, de l'origine ou de la religion. C'est bien pourquoi le Front National et sa candidate sont des ennemis mortels pour les travailleurs. Ils le sont pour l'ensemble de leurs idées réactionnaires qui tirent toute la société en arrière. Mais pour ce qui est des intérêts de la classe ouvrière, ils le sont précisément parce qu'ils dressent les travailleurs les uns contre les autres, en fonction de leurs origines, en fonction de leur religion ou de leurs papiers. L'extrême droite n'est pas la seule sur ce terrain. Les semaines qui viennent de s'écouler ont amplement montré à quel point les limites entre la droite et l'extrême droite s'effacent dans la rivalité électorale, à quel point les Sarkozy, Guéant, Guénot et tous les autres finissent par copier la dynastie Le Pen, quand ce n'est pas l'inverse. Alors, ceux qui dans les classes populaires se sentent trahis et abandonnés par la gauche gouvernementale, et sont tentés par le vote Front National, se tirent une balle dans le pied, montrer du doigt plus pauvre que soi. Rendre responsable de ces problèmes d'autres travailleurs. L'étranger, c'est se tromper d'ennemi, c'est se tromper de colère, c'est se résigner à subir. Abat la résignation, abat le Front National. quand j'entends que les uns à droite rejettent l'idée même du droit de vote des travailleurs étrangers et que les autres à gauche en discutent depuis près de 30 ans, mais discutent seulement de la possibilité de leur donner le droit de vote aux élections locales, je me dis que c'est une honte. Bien sûr que les travailleurs immigrés devraient avoir tous les droits dont bénéficient les travailleurs français, à commencer par le droit de vote et à toutes les élections. Qu'est-ce que c'est que cette démocratie où on a le droit de se faire exploiter, de payer des cotisations sociales et des impôts, mais pas de voter? Écarter les travailleurs immigrés du droit de vote, c'est aussi une façon de sous-représenter la classe ouvrière dans l'électorat. C'est une façon d'affaiblir la portée de la voix de tous les travailleurs, notre voix à nous tous. Accorder le droit de vote dans toutes les élections à tous ceux qui travaillent ici serait un geste démocratique élémentaire, comme le serait celui de régulariser la situation de tous les sans-papiers. Un geste démocratique évident, appliqué instinctivement par les travailleurs dans toutes les grèves, dans toutes les manifestations où il n'y a pas besoin de papier ni de carte d'identité pour y prendre part. Alors oui, tous les réactionnaires de gauche comme de droite auraient bien des leçons de démocratie à prendre du côté des travailleurs. Et je suis convaincue que dans les prochaines luttes, tous les travailleurs se retrouveront côte à côte, travailleurs français ou immigrés, avec ou sans papier. Ils se battront, quelle que soit leur origine, leur nationalité, leur religion, comme un seul homme contre les capitalistes de toute nationalité et de toute origine. C'est dans cette perspective de lutte inévitable, que j'ai défendu tout au long de cette campagne électorale un programme de lutte pour les travailleurs. C'est-à-dire un certain nombre d'objectifs qu'il faudra imposer, non pas dans les urnes, mais par les luttes pour répondre aux problèmes les plus brûlants des travailleurs. Le premier objectif, c'est d'abord et avant tout imposer l'interdiction des licenciements. Même dans cette période de crise, il y a toujours de l'activité, il y a toujours de la production à faire. Eh bien, il faut imposer au patronat qu'il garde au travail tous les salariés. Interdiction de renvoyer les intérimaires, interdiction de renvoyer les CDD, interdiction de licencier dans cette période de crise. Que le patronat répartisse le travail autrement, qu'il baisse les cadences, qu'il diminue les horaires, mais qu'il garantisse l'emploi et le salaire de tous. Dans tous les grands groupes capitalistes, c'est le réflexe inverse. À la moindre baisse des commandes, ce sont des licenciements. C'est un réflexe admis par beaucoup de commentateurs politiques et d'experts économiques. Pour tous ces gens, il est tout à fait normal que les entreprises confrontées à des petites baisses d'activité mettent les travailleurs à la porte, de la même façon qu'on débranche une machine et qu'on la met dans un placard. Comment les travailleurs sont censés vivre après cela? Ils s'en moquent. Eh bien, pas nous. Se retrouver au chômage, c'est une condamnation à la misère. Interdire les licenciements, c'est une mesure d'urgence. Il faut obliger le patronat à puiser dans ses profits présents pour assurer les emplois et les salaires de tous. Et si ces profits ne suffisent pas, eh bien qu'ils prennent sur les profits passés et pourquoi pas sur les fortunes privées accumulées au fil du temps. Et si le patronat privé se révèle incapable de procéder à des embauches en nombre suffisant pour résorber le chômage, eh bien, il faut que l'État prenne le relais. Pour avoir les moyens financiers d'embaucher directement dans les services publics existants ou à créer, il faut que l'État arrête immédiatement toute subvention directe ou indirecte au patronat. Il faut qu'il supprime tout dégrèvement fiscal, tout allègement de cotisations sociales. Pourquoi donc l'État devrait-il continuer à entretenir des parasites inutiles qui ne sont même pas capables d'exercer leur métier de patron en investissant? Et avec l'argent ainsi économisé, Eh bien, il faut embaucher dans tous les services publics utiles à la population. Le manque de logements convenables et accessibles aux revenus les plus modestes est un scandale au XXIe siècle, dans un des pays les plus riches de la planète. Qu'à notre époque, des centaines, des milliers de personnes n'aient pas d'autre endroit pour vivre que la rue ou des abris provisoires, que des centaines de milliers de personnes s'entassent dans des conditions infectes, est un signe de pourriture de la société. Puisque cela n'intéresse pas les bétonneurs privés, ce devrait être à l'État de s'engager dans une publique de grands travaux pour construire les centaines de milliers de logements qui manquent et pour construire aussi toutes les infrastructures qui vont avec, les crèches, les écoles, les foyers de jeunes, les centres culturels. Mais il ne faut pas que ces grands travaux génèrent du profit privé au bénéfice des Bouygues, des Dumès, des Vinci. Il faut que l'État embauche directement pour toutes ces tâches nécessaires. Et il y a là du travail aussi bien pour des maçons, des plombiers, des électriciens, des peintres, de la main-d'œuvre non qualifiée que pour des techniciens, des ingénieurs, des architectes, des comptables, des informaticiens. Et il y a bien d'autres secteurs où les capitaux privés sont complètement défaillants. Celui de l'aide aux personnes âgées ou handicapées, sauf à faire payer leurs services à prix d'or dans les maisons de retraite, par exemple. Eh bien, le fait qu'aucun de ces besoins vitaux ne peut être résolu sur la base des intérêts privés est le signe le plus sûr que le destin de la société ne doit pas être laissé dans les mains des capitalistes. Pour les salariés, c'est de plus en plus dur aussi de joindre les deux bouts. Mais combien d'entre nous qui n'ont qu'un travail à temps partiel, un emploi intermittent, doivent s'en sortir avec 700, 800 euros ? Combien de retraités qui ont travaillé toute leur vie voient leur maigre pension diminuer par l'inflation ? Et combien de familles de travailleurs ne s'en sortiraient pas sans les restaurants du cœur ? Alors, rien que pour rattraper le pouvoir d'achat perdu, il faut une augmentation massive, générale, des salaires. Pas un salaire ou une retraite ne doit être inférieur à 1 700 euros. Et si l'on ne veut pas être sans cesse appauvri par l'augmentation des prix ? Il faut en plus obtenir l'indexation des salaires et des pensions de retraite sur les prix, c'est-à-dire l'échelle mobile des salaires. À chaque hausse de prix, il faut que les salaires, comme les retraites, comme le RSA, comme les allocations logement familial, comme l'allocation adulte handicapé, comme le minimum vieillesse, augmentent automatiquement. Pour ne pas se laisser appauvrir quand tous les prix augmentent, il faut remettre d'actualité la lutte pour l'échelle mobile des salaires. Les journalistes, quand je dis tous, c'est vraiment tous, m'ont posé la question suivante : que faites-vous des petites entreprises ? Il y a des petites entreprises qui ne peuvent pas payer 1 700 euros et des petites entreprises qui sont forcées de licencier. Bien souvent, je me serais cru interviewée par le représentant du syndicat des petites et moyennes entreprises. En fait, les défenseurs de l'ordre social actuel invoquent toujours les petits pour prendre la défense des gros, la défense des plus puissants. Parce qu'il est évident qu'interdire ArcelorMittal de licencier la scierie de Florange est tout à fait réaliste. Comme il est évident que Peugeot aurait tout à fait les moyens de faire tourner l'usine d'Aulnay. Quant à Carrefour, Auchan, la SNCF, la Poste, IKEA, Renault, ils pourraient tout à fait verser des salaires minimums de 1 700 euros sans que cela ne les mette sur la paille. Et pour ce qui est des petites entreprises, si elles disparaissent par centaines, ce ne sont pas les revendications de leurs salariés qui les tuent. Ce sont les banques, les gros donneurs d'ordre, les grands groupes capitalistes de la distribution. L'économie capitaliste est une jungle où les gros mangent les petits, Les gros donneurs d'ordre se servent de la sous-traitance, de l'externalisation pour comprimer les salaires. Ils forcent les plus petits qu'eux à signer des contrats léonins où les marges sont réduites à peu de choses. Et il y a toujours des margoulins pour signer parce qu'ils se disent qu'ils trouveront bien des travailleurs, qu'ils pourront écraser et surexploiter. Mais ce n'est pas parce que les petites entreprises se font faire les poches par les plus gros et par les banquiers que les travailleurs doivent, eux, renoncer à leur droit de vivre. Alors oui, la matière explosive, eh bien, elle s'accumule dans la classe ouvrière. Et le moment de la révolte de millions de femmes et d'hommes viendra, tôt ou tard. Eh bien, il faut que dans cette révolte, les travailleurs aient une politique, qu'ils sachent pourquoi se battre et comment faire pour inverser durablement le rapport de force avec la classe capitaliste. La suppression de toutes les lois qui protègent le secret des affaires doit être un objectif essentiel pour ces luttes. C'est un pas incontournable pour contrôler ce que font ou ce que projettent les conseils d'administration. Les travailleurs ont le droit de connaître tout ce qui se passe dans l'entreprise, les décisions, les projets, les comptes. Il ne faut pas accepter que les dirigeants discutent et tranchent dans le secret des conseils d'administration. Toute la société a intérêt à ces contrôles, car les grosses entreprises ne se contentent pas d'exploiter leurs ouvriers. Elles volent aussi les consommateurs, leurs fournisseurs ou leurs clients quand ils sont moins puissants. Il faut que l'on puisse connaître les conditions faites aux sous-traitants, les marges que les uns imposent aux autres, y compris le dessous de table. Il faut donner aux travailleurs les moyens légaux de tout dire de ce qu'ils savent sans être menacés de licenciement ou de mesures de rétorsion. À eux tous, les travailleurs savent tout de leur entreprise. Eh bien, il faut qu'ils aient le droit de regrouper les informations éparses et le droit aussi de les rendre publiques. C'est la seule façon de porter à la connaissance de tous les crimes patronaux et c'est la seule façon de se donner les moyens de les empêcher. D'empêcher les crimes perpétrés par les banquiers et les spéculateurs irresponsables, mais ceux aussi perpétrés par ces patrons qui sont prêts à sacrifier la santé de leurs salariés avec l'amiante, par exemple. Ceux aussi qui sont prêts à sacrifier la santé des consommateurs, des malades, comme ce fut le cas avec le Mediator et comme ce fut le cas avec les prothèses PIP. Lever le secret des affaires serait un objectif essentiel lors d'une lutte générale, car elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs, des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir. Ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales et prendre l'initiative de les empêcher de nuire. Oui, la crise actuelle montre clairement que la classe capitaliste, les banquiers, préoccupés par leur seul profit privé, sont trop irresponsables à l'égard des intérêts de la société. Mettre en cause leur pouvoir dictatorial sur les entreprises, les soumettre à contrôle, est une nécessité sociale. Je ne dis pas « votez pour moi, je ferai ceci, je ferai cela et tout ira mieux pour vous ». Non, voter pour ma candidature aura une autre signification. Voter pour ma candidature, ce sera exprimer la conviction que si les élections ne peuvent pas changer la vie, la lutte collective des exploités en a la force et la possibilité. Voter pour ma candidature, c'est affirmer que l'on n'est pas dupe devant ces alternances électorales et qu'il y a, parmi les travailleurs, des femmes et des hommes conscients d'avoir à se battre par eux-mêmes. Tous ceux qui voudront affirmer qu'il faudrait refaire un juin 36 ou un mai 68 pour imposer l'interdiction des licenciements, des augmentations de salaire et un contrôle des travailleurs sur les entreprises et sur leur argent pourront le dire en votant pour moi. Bien sûr, le vote ne remplace pas les luttes, Mais les luttes se préparent dans les têtes, avant même qu'une explosion sociale ne crée ce rapport de force nécessaire pour imposer les objectifs vitaux nécessaires pour protéger les travailleurs. Il faut discuter de ces objectifs, les populariser, les mettre dans la tête de ceux qui nous entourent. Cela préparera la suite qui se déroulera là où tous les changements se décident, c'est-à-dire dans les luttes. Oui, ce sera un vote utile. Bien au-delà de l'élection présidentielle, épiphénomène secondaire, bien au-delà même des rebonds de la crise, c'est l'évolution de cette société capitaliste qui est lourde de menaces pour l'humanité. C'est une évolution de fond qui n'a rien à voir avec la personnalité ou l'étiquette de tel ou tel président de la République. C'est une évolution qui dépasse même les limites de l'Hexagone. Cette évolution, c'est partout la pénétration de l'argent, avec son effet dissolvant. On a beaucoup parlé de la financiarisation de l'économie. L'origine de cette financiarisation, c'est que depuis près de 40 ans, le marché des biens matériels ne rapportant pas assez, les possesseurs de grands capitaux délaissent les investissements productifs et consacrent une part croissante de leurs capitaux aux opérations financières qui rapportent plus, c'est-à-dire à la spéculation. L'économie se transforme de plus en plus en économie de casino, avec une classe bourgeoise de plus en plus droguée à la spéculation. Mais il n'y a pas que cela. On démolit systématiquement tout ce qui ne rentre pas dans les circuits de l'argent, en particulier les services publics. De Balladur à Sarkozy, en passant par Jospin, ils se sont passés le relais de la droite à la gauche pour privatiser des pans entiers du service public et pour introduire des rapports d'argent, même là où il n'y avait que des rapports administratifs. C'est sous un gouvernement de gauche, Vincent l'a rappelé, c'est sous un gouvernement de gauche et sous l'autorité de Guessot, membre du PC, qu'a été décidée par exemple la partition en deux de la SNCF, avec d'un côté donc la SNCF qui gère les trains et de l'autre Réseau Ferré de France, RFF, qui gère les voies. Cela signifie que là où il n'y avait que des rapports purement administratifs entre deux secteurs d'une même entreprise de service public, il y a maintenant des rapports d'argent. Et dès qu'il y a des rapports d'argent, eh bien ce sont les banques qui s'introduisent. Et s'introduit le jeu des emprunts et des dettes. Et c'est la porte ouverte aux rackets des banquiers. C'est la porte ouverte à l'endettement, avec pour conséquence des masses croissantes d'intérêts à verser aux banquiers. Et c'est la même chose pour les hôpitaux. Le fait d'y avoir introduit la compétitivité et la rentabilité a fait entrer les banques dans les hôpitaux, dans les services de santé, là où elles ne devraient rien avoir à faire. C'est criminel. C'est criminel, il n'y a pas d'autre mot. Le capitalisme vieillit. Ce n'est pas seulement le chômage, ce n'est pas seulement les quartiers populaires abandonnés, la pauvreté qui monte au milieu de flots d'argent. C'est aussi un recul considérable pour la société sur le plan humain, sur le plan social. Et cela se produit à une grande échelle. À une échelle gigantesque, l'argent emporte tout sur son passage. Et tout cela pourquoi ? Pour alimenter la spéculation financière dévastatrice. Alors oui, ce système économique basé sur la propriété privée des moyens de production, la course au profit privé est arrivée à son absurdité ultime. C'est un système au bout du rouleau qui risque d'emporter toute l'humanité dans son effondrement. En tant que communiste, notre raison d'être est d'œuvrer pour que l'organisation sociale change afin que l'humanité survive, afin que la planète aussi survive. Pour agir sur le terrain de l'écologie, il ne faut pas se satisfaire de bavardages, alors que Total peut, comme avec le naufrage de l'Erika, empoisonner les côtes bretonnes, alors qu'il peut transformer en cloaque à ciel ouvert le delta du fleuve Niger sur des milliers de kilomètres carrés et enchasser toute la population. Il ne suffit pas de dénoncer la pollution des mers, le réchauffement climatique, le trou de la couche d'ozone ou la pollution des sols. Il faut se donner les moyens de maîtriser notre activité économique dans son ensemble. Et maîtriser Notre activité économique a pour condition préalable l'expropriation de la classe capitaliste. Et il faudra commencer par l'expropriation des banques. Et pas seulement parce que les banquiers se conduisent comme des irresponsables et qu'ils ont transformé les salles de banque en salles de casino, mais parce que ce sont les banques qui commandent toute l'économie. Prendre la maîtrise des banques, c'est contrôler l'essentiel de l'économie, l'énergie, les transports, la distribution. C'est décider de l'usage fait des capitaux et c'est les orienter dans des investissements utiles à toute la population. Exproprier les banquiers, c'est-à-dire nationaliser sans indemnité ni rachat les banques et les fusionner en un seul établissement de crédit, sera un pas de géant fait en direction de la gestion de toute l'économie par les travailleurs. Avec l'expropriation des grands groupes du CAC 40 qui font la pluie et le beau temps dans l'économie, les travailleurs pourraient reprendre la maîtrise de toute l'économie. Cela ne sera possible qu'à travers une révolution sociale d'une ampleur comparable à ce qu'a été la révolution de 1789 ou la révolte en Russie de 1917. De telles révolutions ne se déclenchent pas. Elles sont l'œuvre de millions de personnes lorsque, poussées par leurs conditions d'existence, elles se décident à prendre le mal à la racine et à reprendre leur avenir en main. Puisque je me réclame des idées communistes, on m'a aussi demandé dans cette campagne, avec horreur, si j'étais vraiment pour la dictature du prolétariat. Alors, pour revenir à cette expression de Karl Marx, j'ajouterai que le régime mis en place par la révolution des exploités sera infiniment plus démocratique, infiniment plus libre que tout ce que l'on connaît dans la société d'aujourd'hui. Justement, parce qu'elle sera l'œuvre de millions de femmes et d'hommes qui n'ont aucun privilège à défendre, qui n'auront pas besoin de tout l'appareil répressif dont ont besoin aujourd'hui les privilégiés qui sont entourés d'un océan de pauvreté. Dans cette société, les libertés ne seront pas limitées, bafouées, voire complètement déniées par le pouvoir de l'argent. La démocratie ne sera pas cette caricature où l'on élit une fois tous les 5 ans des dirigeants qui, après leur élection, font ce que leur dictent les riches. Toutes les décisions seront prises de la façon la plus démocratique possible. La seule liberté qui sera supprimée et celle d'exploiter. Mais cette limitation-là, oui, nous, les communistes, nous l'assumons. Mais c'est un manque de reconnaissance envers les patrons. C'est quand même bien eux qui innovent, ce sont eux qui créent les richesses. Mais dans votre système, il n'y aurait jamais eu de Steve Jobs, de Xavier Niels. M'a-t-on demandé sérieusement sur une radio, on ne peut plus sérieuse. Mais regardons quelques secondes ces héros du capitalisme, qu'on nous présente comme des génies des temps modernes, à qui on devrait tant de choses. Si Steve Jobs, ex-PDG d'Apple, a eu peut-être des intuitions géniales, il a surtout eu des intuitions commerciales. Et c'est son génie d'homme d'affaires sans scrupules qui l'a fait riche. C'est le travail de dizaines de milliers d'exploités en Chine par des sous-traitants rapaces qui fabriquent tous les jours les téléphones, les iPods et autres tablettes ultramodernes qui ont fait la fortune d'Apple. Quant à mettre en avant un Xavier Niels pour glorifier le génie du capitalisme, eh bien c'est bien caractéristique de ce capitalisme pourrissant. Xavier Niels, 12e fortune française et le PDG de Free. Il a fait fortune avec les sex shops, avec le Minitel rose, en payant au lance-pierre des jeunes femmes pour qu'elles débitent des insanités sur Minitel. Tout ça a sans doute inspiré de son éducation reçue dans une école privée catholique. Aujourd'hui, il fait fortune encore sur des salariés sous-payés. Alors non, je ne vois pas trop de quoi on se priverait en se passant de ces parasites. Et la société dont je me réclame ferait au contraire la place aux chercheurs, aux inventeurs de toutes sortes et à toutes les petites mains, aux millions d'anonymes qui travaillent dans les ateliers, dans les laboratoires ou les services de recherche et développement. Car ce sont eux qui apportent leur contribution au progrès de l'humanité. Ce sont eux qui font collectivement avancer la société. Non, l'individualisme n'est pas l'avenir de la société. Nous sommes communistes, communistes dans le vrai sens du terme, dans le sens donné par des générations d'ouvriers qui rêvaient d'une société débarrassée de la dictature de l'argent, de l'exploitation, de la concurrence et des crises. Une société gérée fraternellement et démocratiquement par la collectivité de ceux qui travaillent et produisent. Ce courant ne regroupe pas beaucoup de monde aujourd'hui, peut-être. Mais la crise est un formidable accélérateur de l'histoire. Elle ne fait pas qu'aggraver les conditions d'existence des classes populaires. Elle remue aussi les consciences. La crise économique actuelle amènera un nombre croissant de travailleurs, de jeunes, à la conscience que renverser le pouvoir de la bourgeoisie n'est pas une utopie, mais une nécessité. Le courant communiste a connu des hauts et des bas. À certains moments, ce courant a été représenté par des grands partis, comme l'était le Parti socialiste à sa naissance, ou le Parti communiste un peu plus tard. Au fil du temps, et sous la pression du capitalisme, les directions de ces grands partis ont trahi leur cause pour s'intégrer dans le système et limiter leurs aspirations politiques à devenir les gérants loyaux d'une société dominée par le grand capital. Mais le courant communiste n'a jamais disparu. Et s'il n'a pas disparu, malgré la pression du stalinisme, malgré la pression du réformisme et de l'électoralisme, c'est qu'il y a toujours eu des femmes et des hommes qui ont su être à contre-courant et qui ont tenu, envers et contre tout, à leur conviction, à leur idéal. Eh bien, je dis à toutes celles et ceux qui sont fiers d'avoir conservé leurs idéaux communistes, leurs rêves et leurs convictions, qu'ils doivent les exprimer dans cette élection par leur vote. Et ce vote comptera pour l'avenir. Parce que la conscience de classe, la conscience communiste, ne peut pas être suspendue en l'air. Pour la transmettre, pour forger à partir d'une classe ouvrière atomisée, une classe consciente de ses intérêts, capable de peser sur la scène politique, puis de disputer le pouvoir à la bourgeoisie, il faut un parti, un véritable parti communiste révolutionnaire. S'il y a un courant communiste révolutionnaire, il n'y a pas de véritable parti, avec ce que cela implique de présence dans la société, de présence dans les entreprises, dans les quartiers populaires. La grande faiblesse de la classe ouvrière face à la bourgeoisie aujourd'hui, c'est cela. La bourgeoisie dispose de plusieurs partis, de la gauche à l'extrême droite, tous prêts à gouverner pour préserver les structures actuelles de l'économie et de la société. La bourgeoisie peut choisir parmi ces partis, suivant les circonstances et suivant les nécessités du moment. La classe ouvrière, en revanche, n'a pas de parti qui représente ses intérêts politiques et uniquement ses intérêts politiques. Ce parti, eh bien, il est à construire. Un parti qui ne cherche pas à s'intégrer dans l'ordre social du capitalisme, ni dans les institutions de la bourgeoisie. Un parti dont l'unique préoccupation soit au contraire face à chaque crise politique, face à chaque crise sociale, de renforcer la classe ouvrière en vue de l'objectif clairement affirmé d'exproprier la classe capitaliste et de mettre les richesses et les moyens de les produire à la disposition de ceux qui travaillent. Au regard de cette perspective, l'élection présidentielle est un épisode insignifiant. Mais si la campagne nous a permis de semer des idées, eh bien elle comptera pour l'avenir. Les graines semées peuvent trouver un terreau dans la jeunesse. Dans la jeunesse qui a toutes les raisons de ne pas accepter le sort que la société capitaliste lui réserve. Dans le passé, on a dit aux jeunes des classes populaires « Faites des études, passez des diplômes, vous aurez un bon travail ». Mais combien sont exclus de l'école beaucoup trop tôt ? Et puis ce sont des centaines de milliers de jeunes qui s'entendent dire que ça n'embauche pas. Combien de CV ont-ils envoyé ? Combien de stages ont-ils accepté ? Combien d'attentes ont-elles été déçues ? Sauf pour une toute petite minorité, la jeunesse travailleuse est ballottée de stage en stage, de mission d'intérim en mission d'intérim, le tout entrecoupé de longues périodes de chômage. Combien de jeunes se disent, à 20 ans, à 30 ans, qu'ils n'ont pas encore commencé leur vie ? Quant aux jeunes qui font des études supérieures, ils peuvent espérer un emploi de cadre, d'ingénieur, de médecin ou d'enseignant. La société capitaliste leur offre peut-être un sort un peu meilleur que celui qu'elle réserve aux jeunes des quartiers populaires. Et encore, il n'y a qu'à voir tous ceux qui, bardés d'un master ou d'une thèse, se trouvent obligés de postuler à des emplois sans rapport avec leurs qualifications et où on les payera grassement 1500 euros, si ce n'est moins. Mais le problème n'est même pas là. Le problème, c'est un problème collectif. C'est que même ceux qui, dans cette société, peuvent tirer leur épingle du jeu, le font au milieu d'un océan de misère et d'injustice. C'est ce que disent bien des enseignants qui se sont engagés dans ce métier avec un idéal et qui constatent au quotidien que l'État les prive des moyens nécessaires pour transmettre correctement des connaissances aux élèves dont ils ont la charge. Et c'est ce que disent aussi les médecins des hôpitaux écœurés de la façon dont leurs services sont contraints de traiter leurs malades. C'est ce que disent bien des chercheurs, voire des cadres d'entreprise à qui on avait fait miroiter la lune et qui se rendent compte qu'ils ne sont que des rouages d'une grande mécanique à profit, toute prête aussi à les broyer. Alors aux uns et aux autres, je veux dire qu'il y a bien un autre avenir. C'est celui des combats collectifs et c'est celui de la révolte consciente. Il n'y a pas de cause plus noble que de s'engager dans l'activité pour transformer la société de fond en comble, afin qu'il n'y ait plus de privilèges et de privilégiés, car la contrepartie, c'est l'exploitation, l'oppression pour la majorité et tout un cortège d'arriérations, du sexisme au racisme, en passant par la xénophobie, voire la guerre. Débarrasser de la mainmise des intérêts privés sur les richesses et les moyens de les produire, débarrasser de l'exploitation et de la course au profit, la collectivité pourra consciemment maîtriser sa vie économique. Elle pourra alors produire tout ce qui est utile et nécessaire, mais rien que ce qui est utile et nécessaire, dans le respect des hommes et de la nature, afin que tous les êtres humains profitent du progrès et accèdent à l'éducation, à la culture, aux loisirs. Alors je dis aux jeunes, ne laissez pas la politique à des politiciens professionnels qui en font une carrière personnelle, mais qui se moquent de la collectivité et de son avenir. Ne cédez pas au conformisme de la société, ne cédez pas à l'individualisme, prenez part au combat pour l'émancipation sociale. À tous ceux qui se retrouvent dans les idées que je défends dans cette campagne, je dis rejoignez-nous en votant d'abord pour ma candidature dimanche. Et je dis à ceux qui nous ont déjà rejoints et qui ont apporté leur contribution à cette campagne électorale, gardons les liens que nous avons tissés entre nous. Car une fois l'élection terminée, il y a les élections législatives où les candidats de lutte ouvrière feront entendre notre politique dans toutes les circonscriptions. Mais au-delà, une fois ces élections terminées, Bien d'autres combats nous attendent, et des combats bien plus décisifs pour l'avenir. Alors, tous les pas faits en avant dans la construction d'un parti révolutionnaire compteront dans les affrontements futurs avec la classe capitaliste. Alors, voter pour ma candidature, c'est affirmer que vous partagez cette vision de l'avenir et rejoignez ceux qui agissent pour que le rêve de l'émancipation sociale se transforme en réalité.
Dans quelques semaines, juste après cette campagne électorale, la présidentielle, et avant celle des législatives où nous nous présenterons dans toutes les circonscriptions, se tiendra notre fête annuelle de lutte ouvrière en région parisienne. Ce sera à nouveau un moment fort pour défendre nos idées avec deux grands meetings de Nathalie à la fête. Mais en attendant, vous trouverez sur les tables de presse, près de la sortie, du matériel pour la campagne, des affiches, des brochures, des tracts, des autocollants. Vous trouverez aussi nos publications avec le journal. Vous pouvez également prendre contact auprès de nos camarades, que ce soit pour poursuivre la discussion ou pour nous aider dans la dernière ligne droite, dans les tout derniers jours de cette campagne. Certes, il nous reste plus beaucoup de temps, mais vous pouvez encore, d'ici dimanche, convaincre vos amis, vos collègues de travail, vos proches, et faire voter pour un programme de lutte et faire voter pour Nathalie Arthaud. Alors, avant de clore cette réunion, nous allons reprendre ensemble le chant traditionnel des travailleurs, l'Internationale.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la terre.